Bonsoir à toutes et à tous, c'est du grain à moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Sous l'été, la plage, entre juillet et août, 35 millions de personnes vont converger vers les côtes et s'agglomérer sur 4% du territoire français. Et si tu ne viens pas à la plage viendra à toi dans sa version urbaine, qu'elle soit de galets ou de sable fin, en bord de mer, de lac ou de Seine, déserte ou surpeuplée, ce petit bout de territoire occupe une place bien particulière dans nos vacances. Ce qui s'y joue, c'est d'abord une histoire de corps. La preuve, en 2016, la France s'est embrasée autour d'une affaire de burkini, 70 ans pile après s'être affolée de l'arrivée des bikinis. L'année précédente, c'était la privatisation d'une plage de Vallauris par le roi d'Arabie Saoudite qui avait suscité l'indignation. De la mise en jeu du voilement et du dévoilement à la question de l'espace public, la plage est un formidable miroir de nos sociétés. Mais il ne faudrait pas oublier qu'elle est aussi un objet culturel. La plage charrie un imaginaire très puissant qui se nourrit de Louis de Funès et de Brigitte Bardot, d'Éric Rohmer et d'Annie Boyle, de Proust et de Stevenson, de Pamela Anderson et de Romy Schneider. Les dessous des plages, c'est le sujet du grain à moudre d'été, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez, sur franceculture.fr.
Ben, la plage, c'est un lieu commun, au sens propre, où la société, avec ses normes, mais en marge de ses contraintes quotidiennes, se met en scène. La plage est un lieu où la société s'idéalise, se stylise, se simplifie, se relâche, se détend, se dissipe et parfois même semble se dissoudre.
Comment le citadin transformé en singe nu pendant les vacances continue-t-il dans le désordre apparent d'une plage à observer des comportements instinctifs rituels ?
Roger, vous êtes plagiste à Saint-Tropez ?
Oui.
Sur votre plage, beaucoup de filles au sein nu et aussi un écriteau. Le monokini est interdit.
Bah, il l'est par décret. Je l'ai appris il n'y a pas longtemps.
Vu de loin, ces citadins déshabillés semble installé en désordre, mais les scientifiques prouvent le contraire. La plage, tout comme la ville, est un jeu de hiérarchie fait de regards, de mouvements et d'immobilité.
Les plagistes regardent la scène, mais pas de réaction. La famille quitte finalement les lieux pour éviter l'amende, 38 euros.
La plage est une ville, en effet. C'est pas les mégalopoles d'aujourd'hui, c'est pas non plus une ville après la bombe, comme dirait Morand. C'est en tout cas une densité urbaine, mais sans cloison. C'est une ville transparente.
Voilà un petit montage d'Anne Depelchin, notre réalisatrice, pour commencer cette émission. Et un montage qui donne déjà du grain à moudre, si vous me passez l'expression, Altair Després, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et anthropologue, vous êtes chercheuse à l'URMIS, qui c'est l'unité de recherche migration et société. Vous êtes surtout, enfin je sais pas si c'est surtout, mais en tout cas c'est la raison de votre présence ce soir, membre du comité de rédaction des actes de la recherche en sciences sociales, une revue de sociologie qui s'est consacrée dans son dernier numéro aux plages, territoire contesté, c'est le sous-titre. En face de vous, Christophe Granger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, membre du Centre d'histoire sociale du XXe siècle, CNRS et Paris 1, et vous avez publié, c'était en 2009, et vous l'avez réédité justement après l'affaire du Burkini en 2016, La saison des apparences, naissance des corps d'été, c'était chez Anna Mossa. Et enfin, une romancière, Marie Nimier, bonsoir.
Bonsoir.
Parce que je le disais, la plage, c'est aussi une affaire de représentation, romancière et scénariste, puisque vous avez un film depuis hier à l'affiche dont vous avez signé le scénario qui s'appelle Barrage, voilà, de Laura Schroeder. Et vous aviez publié en 2016 aussi chez Gallimard un roman, La plage, qui vient de paraître en poche chez Folio. Alors, on entendait dans le petit son qu'on a diffusé pour commencer cette émission, la plage est un espace social comme les autres, c'est une ville transparente. Qu'est-ce que vous en pensez, Altair Després ? Ça vous semble correct ?
Oui, ça me semble plutôt correct, dans la mesure où ça remet un petit peu en question la vision enchantée de la plage que l'on a parfois, qui la présente comme un îlot préservé des rapports de domination, des rapports sociaux ordinaires. Je disais encore récemment dans les colonnes d'un quotidien des mots de Jean-Didier Urbain, qui est ethnologue et spécialiste du tourisme, et qui disait, je le cite, Une fois en maillot de bain, il n'y a plus ni PDG ni métallo. Les pères qui construisent des châteaux de sable avec leurs enfants sont tous des architectes. Alors c'est très joli, c'est formidable, mais je crois que la réalité est malheureusement tout autre et qu'au contraire, effectivement, sur les plages, parce que c'est un espace social, c'est un espace sur lequel se jouent des rapports de pouvoir relativement ordinaires entre classes sociales, entre hommes et femmes, entre générations, entre groupes ethno-raciaux, etc.
Vous citez Jean-Didier Urbain, en effet, il a beaucoup cité dans les articles sur la plage ces derniers temps. Malgré tout, ce qu'il dit rejoint par exemple ce qu'a pu dire un Michel Foucault, c'est-à-dire que la plage, c'est aussi un espace à part. Ce n'est pas que un espace qui reflète. On ne retrouve pas exactement les mêmes rapports sociaux à la plage que ceux qu'on retrouve à la ville. Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas des espaces de domination, mais Christophe Granger, est-ce que la plage n'est pas quand même, malgré tout, un peu un espace à part?
Et moi, je rejoins ce que Altaïr disait, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé dans le bouquin, c'est de reconstituer ça, c'est-à-dire comment on peut tracer la construction de ce mythe de la plage comme lieu à partir duquel tout se recomposerait, qu'on pourrait être... C'est intéressant la citation de Jean-Didier Urbain, parce qu'elle date des années 50, c'est-à-dire c'était le grand mythe du « eh bien, en maillot de bain, on va tous enfin être égaux », et qui correspondait à un moment de volonté de démocratisation de la société française, des loisirs dans la société française, qui a été nivelé et construit par une partie de la population française qui tenait les rênes de la modernisation et qui ont réussi à imposer ces mythes-là et ces codes-là. Or, quand on regarde bien, le plus intéressant, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que la plage est un lieu à part? Ça ne l'est pas, mais ça l'a été. Ça s'est constitué dans le temps, dans l'espace. Ça s'est constitué à partir de points de repère qui sont à la fois imaginaires, mais qui sont aussi la loi. C'est-à-dire, on a constitué un espace dans lequel, eh ben, c'est pas la même loi, elle incombe aux autorités municipales, c'est pas les mêmes règles du jeu, parce que, ne serait-ce que ça, on est convaincu que ce sont pas les mêmes règles du jeu. Mais dans la pratique, ce qu'on fait, le fait de maîtriser ça m'a beaucoup intéressé, la possibilité de s'allonger en public, ne serait-ce que ça, le moment où on invente la possibilité de s'allonger publiquement. Tout ça, c'est des modes de domination sociale qui sont incarnés dans des postures corporelles. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est que on l'oublie. C'est-à-dire, une fois qu'on est sur la plage, tout ça, on l'oublie. Tout ça, on est préparé, on est conditionné pour l'oublier, pour le vivre sur le mode d'une pratique. Mais ça fait pas disparaître tous ces conditionnements, toutes ces normes, toutes ces règles qui sont inscrites dans le sable, dans la manière de se poser, dans le fait de se baigner ou pas se baigner, de se dénuder ou pas se dénuder. C'est ça qui est extrêmement intéressant autour de ce lieu-là.
Ouais. On incorpore ces normes en quelque sorte, on va avoir l'occasion d'en discuter, mais Marie Nimier, malgré tout, et si on prend par exemple le personnage de votre roman La Plage, elle va y chercher quelque chose de particulier sur cette plage, c'est-à-dire que peut-être qu'elle l'intègre d'une certaine façon, mais malgré tout, si elle va à la plage, c'est parce qu'elle y trouve quelque chose qu'elle ne trouve pas ailleurs.
Oui, alors déjà, elle va à la plage, pas pour les gens qui sont sur la plage, puisque c'est une plage soit probablement déserte, enfin qui devrait être déserte. Donc là, on n'est pas du tout dans le même monde. On est sur une plage qui est le bout de la terre, l'endroit qui est le bout de la terre, comme si elle allait au bout d'elle-même, et parce que elle est en fuite, on ne sait pas très bien pourquoi, mais elle fuit quelque chose et elle arrive sur ce bout, la terre s'arrête, et puis la mer va commencer, et entre ces deux choses-là, il y a une langue, qui est une espèce de mariage, comme ça, entre l'eau et puis les falaises, et puis les pierres, entre le minéral et l'aquatique. Et là, sur cette langue de sable ou de cailloux, va se révéler quelque chose qui est de son corps, enfin, de l'intérieur d'elle-même. Ouais. Donc on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde.
Bah c'est vrai qu'il y a une mythologie de la plage déserte aussi. C'est pas celle qu'on retrouve évidemment quand on part en vacances nécessairement, à moins d'en avoir les moyens évidemment. C'est vrai que la plage oscille dans cette tension entre plage surbondée, plage déserte, et on retrouve par exemple là Altaïr Després cette question de des classes sociales en quelque sorte, ceux qui peuvent avoir accès à des plages désertes ne sont pas les mêmes que ceux qui se retrouvent sur les plages bondées.
Oui, tout à fait, vous avez raison. La plage est un révélateur des inégalités sociales. Toutes les plages ne sont pas accessibles à tous et à toutes de la même manière, au même moment, aux mêmes endroits, à la fois parce qu'effectivement, vous avez raison de le suggérer, toutes les catégories sociales ne partent pas en vacances, donc n'ont tout simplement pas accès à la plage en tant que lieu de villégiature. C'est un espace d'inégalité sociale aussi parce que Vous avez certains phénomènes de ségrégation, vous avez des plages privées, vous avez des plages publiques, certaines plages privées ne sont pas accessibles aux budgets les plus modestes. Et puis vous avez des phénomènes de ségrégation raciale aussi, dont on retrouve les traces notamment aux États-Unis. Et puis vous avez aussi, je pense que c'est important de le rappeler, des inégalités sociales dans la manière d'investir la plage. Il y a à ce propos un article, très bel article de Patrick Champagne, qui est un peu vieux maintenant, puisque c'est un article qui date des années 70, qui avait été publié aussi dans les actes de la recherche, me semble-t-il, qui est, mais dont l'analyse est tout à fait actuelle. Et dans cet article, il raconte les décalages qu'expérimentent les paysans lorsqu'ils se rendent à la plage à l'occasion de leur sortie dominicale. Et il décrit très bien comment les paysans viennent trop habillés à la plage, justement parce qu'ils se sont habillés pour le dimanche. Ils expérimentent des décalages aussi dans la manière de se mouvoir, dans la manière de tenir leur corps sur la plage, qui est en décalage avec l'habitus balnéaire bourgeois. Champagne décrit des gestes hâtifs, une démarche pesante, le fait que les paysans justement ne se baignent pas parce qu'ils ne savent pas nager. Ces décalages créent un sentiment de honte culturelle. Donc effectivement, sur la plage se jouent aussi des formes de violence symbolique qui continuent de s'exercer. Et je voudrais simplement terminer là-dessus en disant que, d'une certaine manière, lorsqu'il y a mixité sociale sur la plage, et heureusement ça arrive quand même dans un certain nombre de cas, ça ne signifie pas l'abolition des frontières sociales qui continuent de s'exprimer à travers les corps, à travers les habitus, à travers la manière de se tenir, les pratiques que l'on adopte sur la plage, qui constituent un rappel constant à sa position sociale, à son appartenance de classe, de race, d'âge ou de genre.
Christophe Ganger, c'est justement l'objet de votre livre, ce rapport au corps et comment se construit une représentation du corps, des représentations du corps, corps bronzé ou corps blafard, corps ferme ou corps moins ferme, pour prendre un terme pas trop vexant.
Oui, c'est complètement... Ce qui m'a intéressé, moi, c'était de déconstruire un peu ça, c'est-à-dire la manière dont le suivre les corps, c'est aussi pouvoir déconstruire la plage. C'est-à-dire que là, on parle de plage, il faut pas oublier que les plages d'entre-deux-guerres, par exemple, le moment où on invente le bronzage, enfin, où s'invente le bronzage, c'est pareil, il y a des stratifications sociales très intéressantes. On peut appeler plage un morceau d'herbe et de terre au bord d'un étang, ou les plages des bords de Marne, qui sont considérées comme des lieux... exemplaire de ce qui...
Et aujourd'hui, on a Paris-Plage, il y a des plages à Toulouse...
Il y a des formes de stratification. Mais c'est pareil, il y a des stratifications sociales qui se greffent sur ces pratiques-là. Ce qui est très intéressant... Alors, l'article de Champagne, je crois que c'est 75, mais moi, c'est un article fondateur. Enfin, j'en parle dans le bouquin, il est extrêmement important. Et là, pratiquement au même moment, on avait le bouquin de Pascal Lenné, La Dentelière, où c'est une petite coiffeuse du Nord qui part en vacances pour la première fois sur la plage et qui, là, est mis en scène sur le mode littéraire du... Elle sait pas ce qui s'y fait, elle sait pas ce qu'elle a à faire, elle est pas à l'aise avec ses bras, elle dit, mes bras, ils sont faits pour travailler, j'ai pas l'habitude de les montrer, mon corps, c'est pas une vitrine, je l'ai pas préparé comme quelque chose qui fonctionne sur le mode de l'apparence, mais c'est plutôt de l'ordre du faire, et donc elle est très mal à l'aise avec les codes institués à la fois de production de l'été comme saison dans laquelle on se résume à son corps, et à la fois comme capacité à acquérir les signes légitimes, construits comme légitimes de ce qu'a à être le corps de la saison, bronzé, étendu, ce que je disais tout à l'heure, dénudé comme il faut, et ça rejoint ce que disait Champagne, c'est-à-dire il faut savoir aussi s'asseoir sur une plage, il faut savoir marcher, il faut savoir, tout ça c'est des formes de règles sociales qui ont été incorporées et qu'on finit par oublier et qui sont extrêmement intéressantes parce que ça constitue des espaces dans lesquels on trimballe tout un tas de choses qu'on a le reste du temps avec soi, mais qu'il faut apprendre à maîtriser. Et c'est ça qui me semblait intéressant dans la manière dont on a construit la plage. Et on l'a construit aussi, je dis juste ça parce que ça me semble intéressant, on a construit plage, là on parle pas de la plage l'hiver. C'est-à-dire c'est très intéressant le fait que c'est la plage à un moment de l'année. On fait pas la même chose que ce qu'on fait le reste du temps. Et ça tient pas seulement à l'ensoleillement, ça tient à la construction de la saison des vacances, ça tient à beaucoup de choses.
Ce que vous montrez, c'est qu'avant la saison des vacances, avant que les loisirs, avant les congés payés, les personnes qui pouvaient aller à la plage, c'est-à-dire les catégories sociales les plus aisées, s'y rendaient plutôt quand ils allaient dans le sud, par exemple, s'y rendaient plutôt en hiver, justement, parce qu'on ne se déshabille pas, parce qu'on ne se baigne pas, et tout ce qui s'ensuit, Marie Nimier, la question du corps mis en jeu sur la plage, vous le traitez dans votre roman. L'inconnue, ça commence, elle prend le bus et elle arrive sur cette plage qu'elle va chercher en particulier, c'est une plage qu'elle connaît, et elle y arrive et se dénude, et vous avez accepté de nous lire un extrait. Et donc,
à la sortie des gorges s'ouvre une première plage sans urbanité, une mer sans planche à voile ni bateau de pêche. Une mer pour elle-même, la mer, pourrait-on avancer. Comme on dit, l'espérance ou la vérité, limpide, dépouillée de tout rituel utilitaire, de toute résonance touristique. Ni cabine, ni parasol, pas de flotteur non plus, pas de cri aigu, ni de « excusez-moi pour le ballon ». La plage, comme on la rêve, au début de l'été. Voilà qui devrait l'aider à reprendre pied. Voilà qui devrait l'aider si elle aimait la mer. Mais l'inconnu n'aime pas la mer. Enfin, pas particulièrement. Elle la trouve nettement surévaluée. Tout ce liquide à la fois qui va, qui vient, présente à ses yeux de nombreux inconvénients. Elle marche en direction de l'eau, le plus naturellement possible. La nudité a quelque chose d'artificiel. Elle se sent gauche, empêtrée, gênée aux entournures par l'absence de vêtements. Ses seins, surtout, sont encombrants. Elle aimerait qu'ils disparaissent dans son buste, qu'ils y retournent et qu'on n'en parle plus. Mais on ne peut pas rentrer les seins comme on rentre son ventre, tout au plus arrondir le dos. Le premier bain, donc. Ça commence mal. Elle s'attend à être saisie, l'eau est tiède, huileuse, les vagues sans conviction. La mer est molle, on la dirait fatiguée. Un peu d'écume au coin des lèvres, elle souffle en déroulant sa chanson bancale. Ses alexandrins de 13 pieds. Après je peux continuer, mais on en a pour un petit bout de temps,
parce que vous en êtes au début du roman, et donc il y a encore quelques pages, même si c'est un court roman et très dense. Mais Marie Nimier, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que vous avez voulu absolument que cette plage soit une plage déserte? Qu'est-ce qui vous paraissait intéressant dans ce motif de la plage déserte?
Alors c'est pas la plage déserte, cocotier, etc. C'est vraiment l'idée du bout du monde, du au-delà de la falaise, du on a marché beaucoup et on arrive dans un endroit. On peut pas aller plus loin, quoi. C'est plutôt ça. C'est plutôt
loin
le côté
des rituels
symbolique.
Utilitaires, c'est-à-dire, ouais. C'est aussi une façon de s'échapper de la plage telle qu'on se la représente.
De la plage dont vous parlez là, l'un et l'autre, l'un et les autres.
Les uns et les autres. Qu'est-ce que ça vous évoque cet extrait qui vient d'être lu par Marie Nimier aux uns et aux autres? Je sais pas qu'est-ce qui veut réagir. Moi, j'ai réagi au moins à deux choses. Donc cette histoire de rituel utilitaire, mais aussi l'impossibilité de rentrer ses seins comme on rentre son ventre. C'est-à-dire cette idée selon laquelle notre corps, on le modifie aussi en prévision de la plage, Christophe Granger.
Oui, c'est toute l'idée de la construction d'un corps de saison et d'un corps qui conviendrait à la plage. C'est très intéressant le fait que quand on se retrouve dans un espace, on est conditionné à prendre le corps qui convient à cette circonstance-là. Alors, ou à en jouer, c'est-à-dire à jouer avec la règle, mais en tout cas à s'approprier ça. Et c'est très intéressant de le voir apparaître de manière très... c'est l'historien qui parle, mais de manière très progressive, avec des luttes extrêmement fortes sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Mais je parle pas de droit au sens la loi vient pas prescrire, sauf cas exceptionnels et des bagarres d'arrêtés municipaux qui prescrivent la taille des maillots de bain et autres, comme dans l'entre-deux-guerres ça a été beaucoup le cas. Mais sinon, on est habitué, on sait ce qu'il y a à faire. Et c'est ça qui est très intéressant. Le fait d'éprouver de l'embarras, comme ça se dit beaucoup depuis l'entre-deux-guerres dans les magazines féminins, les femmes se plaignent de cette espèce de corsetage ou l'inverse, de libération corsetée des corps, qui fait que si on n'y satisfait pas, on le vit très mal. C'est-à-dire on est embarrassé parce que je suis trop grosse, parce que je suis trop maigre, parce que j'ai pas le corps qui convient au lieu. Et donc, on voit se développer des stratégies d'évitement de la plage, comme ça. Des gens qui veulent plus y aller et qui en souffrent. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce que on a construit ça, parce qu'on l'a oublié, mais par exemple, le fait d'être bronzé, qui correspondait à cette culture de plage, à partir de l'entre-deux-guerres, quand ça se constitue, on n'est pas bronzé en arrivant et on n'est plus bronzé en repartant. C'est-à-dire ça correspond à ce moment dans l'année, à ce lieu particulier. Aujourd'hui, ça s'est diffusé plus largement parce que le capital corporel a changé de place dans nos structures sociales. Mais c'est très intéressant. Le corps qui convient au lieu. Voilà.
Oui, mais vous parlez de façon du regard des autres. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut sentir très intimement. C'est-à-dire que c'est ça un peu ce roman, la plage. C'est ça, c'est qu'elle arrive, elle est seule sur cette plage. Personne ne la regarde. Et pourtant, elle se sent empêtrée avec son corps. Parce que les vêtements nous protègent et on est habitué d'être protégé par ça. Et donc, très intimement, on peut avoir aussi cette sensation. Pas forcément.
Ça montre à quel point c'est intégré. Ouais.
Et tout le livre sera, se reconstituer un corps et que la plage lui sculpte un corps. L'eau, la plage lui sculptera un corps où elle se sentira mieux.
C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on peut attendre de la plage, en effet, à Altaïr des Prés. Mais dans ce qui est dit, ce qui est important aussi, c'est de signaler que, évidemment, les femmes ne sont pas à égalité par rapport aux hommes, là non plus, sur la plage, par rapport à ces questions-là. Vous avez beaucoup, Christophe Ganger, analysé dans les sources qui sont les vôtres, les magazines féminins, notamment. Et évidemment, sur la plage, les femmes ne sont pas, enfin, comment dire, elles ont une pratique de la plage qui est très différente de celle des hommes, ou en tout cas
oui,
un ressenti.
Oui, tout à fait. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'extrait que vous avez lu, qui était très riche. Mais pour rebondir effectivement sur la question des seins et des seins nus, en particulier sur la plage, on a souvent présenté ça comme une bataille gagnée pour la liberté, et de fait les femmes ont le droit sur la plage, comme rarement dans aucun autre espace public, le droit de dévoiler leur poitrine, ce qui déjà les distingue des hommes, pour lesquels il y a une plus grande tolérance quand même au dévoilement du torse. Mais pour autant, on peut se demander effectivement s'il s'agit réellement d'un rééquilibrage des rapports sociaux de genre, et je crois que plutôt les travaux qui se sont intéressés à la question, et là je pense en particulier au travail de Jean-Claude Kaufmann sur la question, montre qu'effectivement les femmes sont l'objet d'un regard à la fois esthétique et sexuel sur elles, et que il y a des seins sur la plage qui ont toute leur place, et puis il y a ceux qui n'ont pas leur place, tous les autres sur lesquels on porte des jugements qui sont pas tendres, et qui rappellent effectivement à quel point le corps des femmes est l'objet de rapports de domination de genre.
On le voit évidemment dans les représentations, dans les séries par exemple. On se souvient tous d'Alerte à Malibu et de Pamela Anderson dans ce rôle plastique de sauveteuse en mer. Pamela Anderson qu'on retrouve aussi dans le clip du lac de Julien Doré.
Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords. Lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent.
Julien Doré, le lac. Ça devient chaud dans le studio, dit Marie Nimier. Corps contre corps, chante Julien Doré au bord du lac. Pour rappeler que quand même les plages, vous l'aviez dit, Christophe Ganger, c'est pas seulement au bord de la mer, il y a aussi les plages au bord de lac, les plages urbaines, évidemment. Mais ce qu'il faut dire aussi, et puisqu'on a commencé à en parler, j'aimerais qu'on continue un tout petit peu, c'est cette question de l'emprise sur les corps qui s'exercent à la plage, notamment l'emprise du regard, évidemment, prise de la société aussi sur les corps. Et là, on peut parler de ce qui s'est passé l'année dernière, puisqu'on parlait des corps dénudés. Parlons aujourd'hui de ce qui défraie la chronique, c'est-à-dire les corps trop couverts, le burkini, puisque vous parliez de Jean-Claude Kaufmann, il a écrit un livre là-dessus, Altaïr des Prés. Est-ce que, comme ça a été fait, on peut vraiment mettre en miroir finalement ces deux problématiques? Est-ce que les ressorts qui animent ces questions sont un peu les mêmes finalement?
Alors, puisque vous parlez du burkini, je ne vais pas intervenir sur le fond du débat, parce que je trouve qu'il entretient un climat d'islamophobie assez nauséabond, et donc j'ai pas tellement envie d'y participer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très intéressant dans la dynamique de ce débat, c'est qu'il est révélateur de luttes sociales qui sont bien plus générales et qui dépassent largement le cas du burkini, de luttes sociales à propos de la définition du maintien légitime du corps, en particulier dans l'espace public. Et pour parler d'une plage d'un territoire plutôt que je connais, sur les les plages de Zanzibar, vous avez, donc Zanzibar pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers de cet endroit, il s'agit d'un archipel tanzanien, musulman, qui est situé à quelques dizaines de kilomètres des côtes est-africaines et qui est une destination de plus en plus prisée par notamment les jeunes femmes européennes. Sur ces plages de Zanzibar, on retrouve ces luttes pour l'imposition de la tenue de plage légitime et de manière plus générale de la tenue du corps légitime qui fait se confronter les populations locales et les touristes. Pour résumer le débat très rapidement, vous avez d'un côté l'éthos corporel musulman tel qu'il s'est construit historiquement et culturellement dans les sociétés swahili et tel qu'il s'exprime à Zanzibar, qui valorise plutôt une certaine retenue, une certaine décence, une certaine pudeur dans l'habillement et dans l'usage du corps. Et de l'autre côté, vous avez cette habitus vacancier occidental qui donc ces manières de faire et de penser qu'ont les touristes, qui s'expriment au contraire à travers un relâchement des conduites corporelle, un desserrement des contraintes vestimentaires. Et donc on a sur les plages de Zanzibar aussi, d'une certaine manière, en miroir de ce que l'on a, de ce que l'on connaît en France à propos du burkini, ces mêmes luttes inégales entre des définitions concurrentes de la bonne façon de tenir son corps.
Christophe Granger, après ce détour par Zanzibar, je rappelle que votre ouvrage avait été republié, la saison des apparences a été republiée après cette affaire des burkinis. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de le republier à cette occasion-là? Et qu'est-ce que ça disait, selon vous? Est-ce que je repose un peu la même question? Est-ce que c'est les mêmes mécanismes, finalement?
Non, alors il y a deux réponses, mais ce qui est intéressant, c'est que la raison pour laquelle je l'ai republié, c'est à la fois d'être saisi en tant qu'historien par ce qui se passait, c'est-à-dire que alors moi je suis d'accord sur le fait que le débat est, même encore aujourd'hui, je pense qu'on peut pas en parler posément, c'est-à-dire qu'on a fait intervenir des choses qui sont hallucinantes sur l'insinuation de l'islamisme en France à travers ces tenues-là, l'asservissement de la femme, on a eu des arrêtés municipaux, on a eu des choses hallucinantes, et puis surtout ce qu'on a eu, mais on est tributaire de ça encore aujourd'hui, le fait d'avoir à prendre une position, d'être pour ou contre. Moi, ce qui m'a marqué en tant qu'historien, c'est que c'était le point de départ du bouquin que j'avais fait à l'époque, c'est-à-dire, on a eu des bagarres de plage hallucinantes dans l'entre-deux-guerres, qui étaient menées en partie au nom de la morale religieuse en France, et qui visaient à interdire, pour aller vite, le fait de se déshabiller sur la plage. C'est-à-dire les femmes qui portaient des maillots de bain, les hommes qui arrêtaient de porter des maillots de bain qui couvraient les épaules et le torse. Et dans l'entre-deux-guerres, on a eu des luttes, mais homériques vraiment, avec le clergé qui s'en est mêlé, avec des bagarres physiques, avec des pétitions, avec des arrêtés municipaux, des centaines à travers le pays, qui prescrivaient ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et ce qui me semblait intéressant, c'est que on a déjà eu ces débats-là. On a déjà eu la manière de le régler. C'était monté à la Chambre des députés, ça avait fait un débat dans l'opinion de manière considérable. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'à l'époque, déjà d'un point de vue strictement des correspondances très faciles pour l'historien, à l'époque on se battait contre le fait de se déshabiller, là on s'est battu contre le fait de ne pas se déshabiller, ce qui est proprement hallucinant. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une partie des oppositions sont venues de rangs qui sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire une forme de traditionnalisme, d'attachement à la vraie femme, la vraie française, la vraie mère catholique, ou le vrai chef de famille ne font pas ça, c'est-à-dire ne portent pas un maillot de bain. Et encore, quand je dis maillot de bain, c'est des choses auxquelles on est très habitué, voire des choses beaucoup plus classique que nos maillots de bain actuels. Autour du burkini, ce qui est très intéressant, c'est cette lutte de définition qui s'est passée. Il y a deux choses. Selon moi, d'une part, c'est qu'on l'a mis sur le terrain des interprétations, c'est-à-dire on en a fait le signe d'autre chose, sans aller voir ce que c'était. Et ce que c'était avant tout, c'est une pratique. C'est-à-dire que ces femmes, ces jeunes femmes qui ont été verbalisées, souvent qui portaient pas de burkini, c'est pas du tout le propos, qui avaient un voile, qui avaient une tunique, un legging, et qui étaient verbalisées parce qu'elles se baignaient habillées. Ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est la manière dont on a cessé de tolérer ces pratiques-là, alors que le droit dit, on n'a pas le droit de les interdire. Et ensuite, ce que ça fait jouer, c'est ça, c'est qu'on a, au nom d'un arbitraire social constitué, qui est les normes instituées du corps de plage, du corps d'été, dit ceci n'en est pas, ceci on veut pas le voir, ceci c'est quelque chose qui doit être interdit. Je rappelle, voilà, simplement le droit en France interdit d'interdire et interdit de prescrire des tenues. On a le droit, on est libre de se vêtir comme on veut, on est libre de manifester son appartenance
oui, religieuse comme on veut. Au-delà du droit, ce que ça montre, c'est que malgré tout, vous dites, c'est hallucinant, mais il y a là une manifestation quand, avec l'affaire du Burkini, si on sort évidemment la question, même si c'est difficile de le faire, mais de l'islamophobie latente dans ce débat, il y a malgré tout quelque chose de compréhensible, c'est-à-dire, si on repart de cet imaginaire de la plage comme lieu de liberté, comme lieu où on affirme cette liberté, avec le débat hein, que vous avez soulevé, Altair Desprez, est-ce que c'est vraiment se libérer que de se mettre en bikini, on peut en discuter, mais malgré tout, voilà, on comprend très bien que ça puisse choquer de voir l'arrivée de ces femmes tout habillées, entièrement couvertes, sous une autre forme de pression.
Ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est si on dit la plage est le lieu des libertés, c'en est une liberté que de s'habiller comme on veut. Et en l'occurrence, de rester habillé pour se baigner. Ce qui est intéressant pour nous qui discutons de la plage, c'est que là, on s'est mis à pas le tolérer sur cet espace-là. C'est-à-dire que dans les rues de Paris, dans les rues d'Aile...
Y a aussi une loi qui interdit le burkini dans l'espace public.
On se promène pas sur les trottoirs, dans la rue, en burkini, c'est pas la question. Non, en revanche, on a le droit de se promener en voile, les femmes ont le droit de se promener voilées, et là, en l'occurrence, et c'est ce qu'elles disaient toutes, c'est-à-dire, mais moi je le fais le reste du temps. De quel droit on viendrait me l'interdire? Et c'est même pas de quel droit, ça m'est naturel de le faire, je prends même des libertés avec ce que je fais habituellement. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça, le monceau d'interprétation qu'on a mis derrière. Et je crois pas qu'on puisse enlever la partie islamophobie, parce qu'il y avait les attentats, parce qu'il y avait tout un contexte. Quand on regarde les arrêtés municipaux, sur les questions de troubles à l'ordre public, sur les questions d'hygiène, c'est-à-dire le fait de se baigner en tenue habillée comme ça serait un manquement à l'hygiène pour des questions de sécurité. On a fait, les maires en l'occurrence là, qui ont procédé sur ce mode-là, ont d'abord tout mélangé, mais produit ce débat-là et construit quelque chose qui est hallucinant. Je reviens sur cette question, sur ce
Sur ce terme. Bon, passons à un autre sujet, puisque celui-ci date un peu de l'année dernière, mais il illustre quand même quelque chose. C'est cette ambiguïté sur la plage. Est-ce que la plage est un espace privé ou un espace public? Marie Nimier, comment est-ce que quand vous pensez cet espace, ce roman, la plage, vous allez y chercher un lieu de l'intime en définitive?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, enfin, ce que j'entends là, ce que je peux entendre, c'est que la plage cristallise. Hein, c'est-à-dire non seulement les grains de sable sont des cristaux, mais elle cristallise, elle révèle, on disait ça en début d'émission, c'est un formidable révélateur de l'intime. Et là, dans mon livre en l'occurrence, c'est ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi et comment, par quelle magie ça se fait, le personnage arrive, chargé de ses tensions, violemment chargé, et il va repartir quelques jours plus tard et sera différent. Et ce sera la plage qui aura révélé
qui aura gagné. 18h47, vous écoutez France Culture, du grain à moudre d'été. Vous aurez compris qu'on vous parle de la plage. Peut-être en revenez-vous, peut-être êtes-vous coincé dans les bouchons pour revenir de la plage. Peut-être allez-vous y partir dès ce week-end. Chanceux que vous êtes. On en parle avec la sociologue et anthropologue Altair Desprez, avec l'historien Christophe Granger et la romancière Marie Nimier. Altair Desprez, si on reste sur cette idée de la plage comme espace public ou espace privé, voilà une autre politique. C'était une année auparavant, quand le roi d'Arabie Saoudite avait privatisé cet espace. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à envisager. Est-ce que la plage, c'est un espace tout à fait ouvert et public? Est-ce qu'il peut être privatisé? Comment est-ce que ça se passe finalement dans les pratiques?
Écoutez, il y a des portions de plages qui sont publiques et vous avez des plages qui sont privées et des plages qui sont parfois privatisées.
Mais il est interdit de complètement fermer une plage.
Oui, tout à fait, et ça n'empêche pas certains de le faire tout de même. Et effectivement, la polémique que vous avez citée à propos du roi d'Arabie Saoudite rejoint une autre polémique plus récente, celle-ci, autour de la question de la concession, de la gestion de la plage de la Baule à l'entreprise Veolia. Et effectivement, derrière ce débat... Ou ces polémiques, ces mobilisations, il y a l'idée que la plage est une ressource, en fait. C'est une ressource parce que, elle crée des emplois, elle crée des revenus pour ceux qui y travaillent et pour ceux qui l'exploitent, et que donc il y a un certain nombre de conflits entre des groupes sociaux qui se disputent la gestion de certaines plages ou qui se disputent à propos de leur aménagement. Et à ce sujet, je renvoie les auditeurs à l'article d'Isabelle Bruno et Grégory Salle sur la plage de Saint-Tropez, qui est une belle illustration de ces conflits d'usage et de ces luttes d'appropriation entre l'État, les plagistes, la municipalité, etc.
Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages. Seul dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots.
Seul sur la plage, seul sur mon île, chante Juliette Armanet. On est rarement seul sur la plage, il faut bien le dire. Et même quand on est sur une plage un peu déserte, eh bien, il y a toujours quelqu'un pour s'asseoir à côté de vous. C'est une expérience qu'on a tous vécue. Est-ce qu'on veut vraiment être seul sur la plage? Qu'est-ce que vous en pensez les uns les autres?
Moi, je suis jamais seul sur la plage.
Jamais?
Même si je suis seule, il y a toujours des fourmis, des guêpes, des crabes,
des
je
puces,
sais
de
pas,
mer,
moi,
peut-être.
Des cailloux qui sont là encore révélés par la mer, par l'eau. Donc je trouve que là, et puis c'est vrai que j'y viens jamais sans un livre non plus. Donc j'ai toujours aussi avec un livre, avec des mots, c'est vraiment associé pour moi.
C'est une idée qu'on se fait en fait, Christophe Granger. On va pas chercher la solitude sur la plage.
Bah, encore une fois, tout dépend de la saison et tout dépend des appartenances sociales, c'est-à-dire le fait de fuir la foule, de partir hors saison et ainsi de suite, fait que la plage n'est pas un lieu qui a la même identité au long de l'année et pas la même identité non plus selon les latitudes et tout ce qu'on veut. Mais oui, le mythe de la Robinsonade, l'idée qu'on pourrait se retrouver tout seul sur une plage, c'est très intéressant. Et en même temps, on est tributaire des aménagements, là on va plomber l'ambiance, mais on est tributaire des aménagements, des politiques d'aménagement du territoire qui ont fait que à partir des années 50-60, on a embarqué les mêmes personnes, ce que vous disiez, 4% du territoire sert à 35 millions, et ben on se retrouve en groupe, on se retrouve en masse. Et pour beaucoup de monde, c'est un bien. C'est il y a de la vie. Je suis à l'endroit où les choses se passent et c'est là où il faut être. Et voilà.
Oui. Et là, vous parlez beaucoup de l'espace social, mais il y a aussi le temps. Le temps est quand même très différent et pour tout le monde sur la plage. Enfin, bon, d'abord il y a figure du sable, toujours du sablier, etc. Bon, donc on est déjà dans un temps symboliquement, mais aussi la journée passe, le soleil est dur et puis après les ombres s'allongent. Enfin, et on prend le temps différemment. Vous en avez peu parler.
Mais moi c'est un apprentissage, c'est des pages magnifiques de Colette, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, qui parle de ça, la manière dont on se tronçonne des plages, au sens des plages de temps à l'échelle de la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon gré mal gré, c'est aussi des formes de construction sociale, c'est-à-dire la capacité d'aller, de savoir découper le temps et d'aller au bon moment. Alors j'y vais à tel moment parce qu'il va y avoir moins de monde, j'y vais à tel moment parce que le soleil donne pas de la même façon. Tout ça, ce sont des compétences sociales qui sont constituées, qui sont incorporées. Et c'est, oui,
il sera dit que tout sera déconstruit aujourd'hui, Marie Nimier, mais rassurez-vous, c'est toujours la littérature qui gagne à la fin. En tout cas, j'en suis convaincu, Altair Després, sur cette question.
Oui, je voulais simplement réagir sur la question de la plage comme lieu de rencontre, la plage comme endroit où on côtoie les autres. Dans certains contextes et sous certaines conditions, la plage est parfois même un lieu de rencontre intime, sexuelle, amoureuse et parfois conjugale, comme ça a été le cas très clairement sur les plages de Zanzibar, dont j'ai pu m'apercevoir qu'elles étaient des lieux de rencontre tout à fait extraordinaires entre notamment ces jeunes touristes européennes et ces populations locales de jeunes hommes qu'on appelle souvent localement des Beach Boys, qui sont des jeunes entrepreneurs touristiques informels. Et il y a de très jolies histoires d'amour qui se sont nouées sur les plages de Zanzibar.
Ce que vous racontez avec des jolis mots pourrait être dit dans des termes un petit peu plus glauques, si vous me passez l'expression. Alors peut-être que vous le faites de cette façon-là parce qu'il s'agit de jeunes femmes avec occidentales avec des jeunes hommes africains. Est-ce que ce serait la même chose si c'était l'inverse? J'en suis pas convaincue.
Non, mais effectivement,
ce qui
non,
montre
non,
que
avez...
vraiment les rapports.
Bien sûr, non, vous avez raison de signaler. Je c'était pour essayer de sortir un peu de l'esprit chagrin que j'ai incarné pendant cette émission, mais de finir sur une note peut-être plus gaie. Évidemment, ça n'empêche pas des rapports de force nord-sud, mais de façon un petit peu différente de ce que l'on observe dans le cas des plages classiques, entre guillemets, du tourisme sexuel, celle de la Thaïlande. Là, on a affaire quand même à des rencontres entre non seulement des gens qui ont à peu près le même âge, qui sont très hétérogames du point de vue de leur origine sociale et culturelle, mais qui se ressemblent du point de vue de l'âge et qui surtout nourrissent ensemble un projet d'ascension sociale.
Alors là, on a encore fait un petit détour par Zanzibar, on a voyagé, mais ce qui est intéressant avec la plage, et peut-être on peut terminer là-dessus, ça nous renvoie un peu vers ce que Marie Nimier disait sur la question du temps, c'est que la plage c'est aussi un voyage immobile. L'immobilité, c'est un élément essentiel de la façon dont on se comporte sur la plage, Christophe Granger.
Ah, oui et non, parce que l'immobilité, à partir du moment où on considérait que on se pose et puis ensuite on bouge plus. Or, encore une fois, il a fallu apprendre à marcher, à se déplacer, à aller se baigner et puis ensuite à rejoindre sa serviette.
Mais Aldo Machian nous a appris comment marcher sur la plage.
Et il nous a appris, mais il a fallu apprendre, il a fallu constituer un répertoire d'actes qu'on met en espèce comme ça. Ce qui me semblait très intéressant de ce que disait Altaïr à l'instant, c'est-à-dire on a oublié ça, mais par exemple dans l'entre-deux-guerres, la plage est, on parlait de laboratoire, enfin moi je parlerais de laboratoire, c'est un lieu d'initiation pour la société, de cristallisation comme vous disiez tout à l'heure. La mixité dans l'entre-deux-guerres, par exemple, qui est pas du tout habituée, la plage est un lieu d'incarnation de la mixité. C'est là où on voit le corps des femmes, où on voit le corps des hommes, le corps des jeunes hommes. Ça s'est pas passé si simplement qu'on l'imagine, mais c'est très intéressant ça. Alors bon, pour la mobilité, on bouge sans arrêt sur une plage. Il y a du mouvement en permanence. Et c'est pareil, en fonction des moments de la journée, l'animation est pas la même. Et oui.
Et puis juste, je voudrais ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais que la plage, c'est pas uniquement le lieu de vacances des vacanciers qui viennent, qui s'y posent et qui bougent plus. En fait, on oublie que la plage, c'est aussi le lieu de vie de certaines populations locales. Alors c'est vrai particulièrement dans les pays du Sud où les plages sont le lieu de vie quotidien d'un certain nombre de pêcheurs, par exemple, qui vivent ici. Et pour reprendre l'exemple des Beach Boys de Zanzibar, sont des jeunes hommes qui marchent des kilomètres et des kilomètres tous les jours sur la plage.
Donc
l'immobilité, n'est pas pour tout le monde.
Non, en fait, je citais là une idée qui m'était venue en lisant cette phrase de l'anthropologue Marc Auger qui parlait de la plage comme d'une immense salle d'attente sans espoir de départ. Je trouve que c'était assez joli. C'est très littéraire, Marie Nimier.
Oui, puis c'est le lieu de l'enfance aussi beaucoup. Enfin, pour moi, si on veut aller dans cette de l'immobilité, mais le voyage vers les souvenirs, vers le passé, vers l'enfance, la construction des châteaux de sable.
Parce que votre inconnue, elle reste, elle se baigne évidemment, elle bouge un petit peu, mais ce qu'elle va chercher, c'est l'immobilité aussi, cette façon.
Non, c'est un retour dans son passé, de quelque chose qu'elle a vécu sur cette plage. Et c'est comme si elle revenait de en arrière et puis qu'elle allait
rester au même endroit pour voyager dans le temps peut-être, c'est vrai que...
Et puis retour à l'enfance en fait, c'est ça aussi.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'enfance.
Bah oui, j'en parle. Enfance.
Vous en parlez Marie Nimier, mais les uns et les autres, quelle place est-ce que les enfants ont une fonction sociale particulière sur la plage ? Christophe Granger.
Non, mais c'est parce que évidemment, ça me ramène directement à la première partie du bouquin, qui est que cette construction du temps social particulier, des vacances, de l'été, donc du corps d'été et de la plage en particulier, a été d'abord constituée autour de la question des enfants. C'est-à-dire, c'est le fait que les enfants étaient dans les villes pendant l'été, assujettis aux microbes, aux bactéries, et qu'il a fallu inventer une saison et des lieux sur lesquels ils retrouvent la santé, ils changent d'environnement. Ça a été constitué autour de la question de l'enfance.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, je ne vous le chante pas car je chante terriblement mal et je ne vous demande pas non plus de chanter car nous n'avons plus le temps, Marie Nimier.
Ah,
merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle La Plage, votre roman vient de sortir dans la version poche chez Folio. Merci également Christophe Granger. Voilà, il est là, la saison des apparences, c'est chez Anna Mossa. Et enfin, Altaïr Després, Les Actes de la Recherche, dernier numéro paru au Seuil, Plage, Territoire, Contexte. manifester. Voilà pour les références des uns et des autres. Et merci d'avoir participé à cette émission du Grain à Moudre d'été. Une émission qui a été préparée par Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Fuentes et Juliette Montilly. À la réalisation, c'était Anne Despelchin. Et à la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.